Le journal et la synthèse complète de ces élections municipales avec vous, Claire Servageant, bonsoir.
Bonsoir, complète, on va essayer, on va voir en tout cas. Bonsoir à tous. On fait donc un nouveau point sur ce second tour des élections municipales qui restera dans les annales. Un deuxième tour qui arrive 3 mois et demi après le premier pour cause de pandémie. Un deuxième tour marqué par une abstention record, on va y revenir. Tout comme on reviendra sur la victoire du Premier ministre qui sauve l'honneur de la majorité présidentielle au Havre. Car pour le reste, c'est une vague verte qui submerge les grandes villes de France ce soir. Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Besançon, pour ne citer qu'elles.
France Inter, Municipal 2020, édition spéciale.
Et pour commencer, direction Bordeaux, où le vert Pierre Urmic devance le maire sortant Nicolas Florian. Autant dire un séisme sur les bords de la Garonne. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Beaucoup d'ambiance derrière vous.
Oui, toujours. Et encore, ça s'est un petit peu calmé hein, après une soirée vraiment incroyable de rebondissements. Alors au début, on y croyait vraiment beaucoup hein, dans le camp du maire sortant Nicolas Florian. Et puis à mesure que les résultats des bureaux se sont mis à tomber, eh bien plus le camp Urmic s'est mis à y croire avec les sympathisants qui se sont massés devant son QG. Pierre Urmic qui a pris tout son temps pour sortir, pour annoncer sa victoire, comme si lui qui ferraille depuis 30 ans contre cette droite bordelaise mettait du temps à réaliser. Il est enfin sorti porté triomphalement par ses partisans, une énorme foule compacte jusqu'à la mairie où il s'est adressé à eux.
Cette victoire, je l'assumerai sans arrogance, avec humilité, mais aussi avec fierté quand même d'avoir amené ici au pouvoir les forces qui sont autour de cette liste. Après une vie politique bordelaise plutôt monolithique ces 75 dernières années, je pense que cette victoire-là, nous l'assumerons, je le redis avec humilité, sans arrogance. Je suis, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un homme de parti, je ne suis pas un homme d'appareil, et je vous promets que je serai le maire de toutes les Bordelaises et de tous les Bordelais.
Bravo, bravo, bravo.
Voilà, un mandat sans arrogance, c'est ce qu'a promis Pierre Urmic en arrivant dans cette cour de l'hôtel de ville. Il prendra en compte ses opposants, il leur donnera même la commission des finances. Ça sera l'une des premières choses qu'il fera cet été. Voilà, Bordeaux qui a vraiment vécu une soirée historique, fin d'une page de 75 ans, et qui se termine là, vous voyez, dans la cour de l'hôtel de ville avec les derniers sympathisants qui ne veulent pas vraiment partir et continuer. Voilà, s'embrasser et à profiter de cette soirée inoubliable.
Merci beaucoup Élodie Forêt, grosse ambiance derrière vous. Je pense que c'est à peu près la même chose à l'autre bout du pays, du côté de Strasbourg. Cyril Graziani, vous êtes avec celle qui a gagné ce soir, l'écologiste Jeanne Berséguian.
Oui, Jeanne Berséguian qui est justement en train de parler. Elle s'est fait un peu attendre à son QG, comme vous pouvez l'entendre. Elle vient de faire un discours, elle est encore en train de parler, excusez-moi. La vague verte passe ce soir par Strasbourg, elle devient la première maire écolo de la capitale européenne. Pourtant, ce n'était pas joué d'avance car elle avait décidé de partir seule sans le Parti Socialiste. Mais elle devance ce soir largement La République En Marche avec près de 42% des voix contre 32% pour La République En Marche. Jeanne Berséguian a d'abord cité en arrivant Mark Twain. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Au Théâtre National de Strasbourg, leur QG, les écologistes ont déjà annoncé, on l'imagine, une grande soirée pour fêter cette victoire. Et ils ont demandé et bien évidemment que les distances sociales soient respectées. Je pense que ça va être compliqué ce soir.
Merci beaucoup Cyril Graziani en direct de Strasbourg. À Lyon, l'écologiste Grégory Doucet sera le futur maire de la ville. Il l'emporte lui aussi et il tient à rassurer les acteurs économiques de la ville dans sa toute première déclaration.
Aux acteurs du tissu économique dont la préoccupation est grande après ces mois douloureux qui les ont malmenés, nous disons: l'écologie n'est pas l'ennemi de l'économie. Elle est sa meilleure alliée. Elle le sera dans le temps de la relance et dans le temps d'après. Lyon va devenir une référence. Lyon, troisième ville de France, a le devoir de tracer le chemin, celui de la transition écologique et de l'humanisme. J'appelle donc chacune et chacun à prendre sa part pour être fier demain d'avoir agi aujourd'hui.
Voilà pour la première déclaration du futur maire de Lyon, l'écologiste Grégory Doucet. Bonsoir, rebonsoir plutôt Yaël Gauz.
Bonsoir Claire.
Chef du service politique de France Inter. On s'arrête un instant. Quels sont peut-être les autres faits marquants de cette soirée électorale très particulière? À commencer évidemment par cette vague verte qui submerge un petit peu tout.
Oui, qui submerge deux des plus grandes villes de France.
On pense
à Lyon,
on va dire,
Grégory Doucet. On pense à Marseille où Michel Rubirola devance d'une dizaine de points Martine Vassal. Il faudra voir après ce que ça donne secteur par secteur et dans l'hypothèse d'un troisième tour. Mais il y a d'autres villes encore, hein. Tours, Poitiers, Besançon qui passent aux mains des Verts. Annecy, on l'a appris il y a quelques minutes. Donc effectivement, c'est l'enseignement de la soirée. La vague est verte et plus verte que ne l'attendaient eux-mêmes les écologistes qui, souvenez-vous, il y a 3 ans, n'avaient même pas de candidat à l'élection présidentielle et n'avaient pas non plus pu élire de député ELV à l'Assemblée. Donc c'est un grand retournement. Les autres enseignements, c'est bien sûr le Rassemblement National, qui décroche pour la première fois depuis 1995, une ville de plus de 100 000 habitants. Le tout sur fond, effectivement, d'une abstention extrêmement forte, record pour des municipales. On est 20 à 25 points en dessous des niveaux de deuxième tour de la précédente municipale de 2014. Évidemment, sous l'effet du Covid, c'est ce qui ressort des enquêtes sorties des urnes, c'est que les Français ont encore été réticents à aller voter suite, évidemment, aux gestes de barrière à l'épidémie qui n'est pas encore terminée.
Une abstention extrêmement forte. Stéphane Zumsteck de l'Institut Ipsos Soprasteria, notre partenaire pour ce scrutin. Cette abstention, vous l'aviez sentie, mais peut-être pas à ce point-là.
On l'avait senti, bien sûr. Déjà, on ne l'avait pas senti à ce niveau-là le 15 mars dernier, il faut le reconnaître, hein, évidemment. Et cette fois-ci, pour ce second tour, on se doutait bien qu'elle serait aux alentours de l'abstention du premier tour. On s'attendait malgré tout à un petit regain de participation, parce qu'après tout, on était sortis du confinement, que les gens revenaient à une vie plus ou moins normale petit à petit. Ça ne s'est pas produit. Ce qui est intéressant aussi, on a beaucoup entendu au soir du premier tour, comme ce soir, des analystes disant finalement si la droite perd un certain nombre de villes, c'est parce que les personnes âgées, qui souvent votent à droite, se déplacent moins parce qu'elles ce sont des personnes à risque et ont eu peut-être davantage peur. Ce qu'on a vu dans les différentes enquêtes au premier tour, comme dans les enquêtes réalisées hier et avant-hier sur la mobilisation des différents classages, on ne sent pas ça. Ce serait, à mon avis, réducteur de dire qu'un certain nombre de villes basculent parce que l'électorat âgé ne s'est pas mobilisé et qu'au contraire, ce sont les jeunes qui sont allés voter, qui ont voté pour la gauche ou pour les écologistes. C'est pas ça. Si les écologistes progressent, par exemple, c'est parce qu'ils progressent dans toutes les strates de la population, y compris et dans toutes les classes d'âge.
L'autre enseignement, c'est évidemment la lourde défaite pour le parti majoritaire, pour La République En Marche. J'avais regardé, avant de faire l'émission, les espoirs résidaient dans 4 villes, hein, Aix-en-Provence, Lons-le-Saunier, je vais y arriver, Aix-en-Provence, Lons-le-Saunier, Strasbourg, et bien dans ces 3 villes-là, effectivement, il n'y a pas de victoire En Marche. Donc effectivement, c'est 0 conquête ce soir pour La République En Marche. Ça posera un problème pour la suite, puisque c'est l'écurie présidentielle qui doit aider Emmanuel Macron à se représenter en 2022.
Effectivement, Rémi Lefebvre, je ne vous oublie pas, mais je voudrais qu'on écoute d'abord une première réaction, celle d'Anne Hidalgo, qui a été réélue maire de Paris ce soir. Elle était donnée largement gagnante par les sondages, mais elle est réélue et elle remercie notamment les Verts.
Je veux remercier David Béliard ainsi que toutes les forces qui se sont unies dès le premier tour autour de notre projet et qui ont permis de constituer cette alliance écologique, sociale, humaniste pour l'avenir de Paris. Nous expérimenterons au cours de ce mandat, d'autres manières de faire vivre la démocratie parisienne, afin de donner le goût de l'engagement à celles et ceux qui aiment leur ville. Les Parisiennes et les Parisiens auront, au cours des 6 années qui viennent, besoin de nous. Avec mon équipe, nous serons là.
Voilà pour cette toute première déclaration d'Anne Hidalgo, réélue ce soir maire de Paris. À Lille, Martine Aubry sauve son siège de justesse avec un petit peu plus de 200 voix d'avance sur l'écologiste Stéphane Bally.
J'ai entendu, j'allais dire je le savais, mais je l'ai entendu encore plus fort, le message partout en France sur la nécessité de cette transition écologique. C'est ma conviction, croyez bien que nous tous ici, et je le dis particulièrement à Stéphane Bally et à ses colistiers, nous n'oublierons pas ce qu'on dit partout en France et ici, à Lille, les 39% des Lillois qui ont voté pour eux, même si je pense que les 40% qui ont voté pour nous sont aussi favorables à la transition écologique. Voilà, je crois qu'il faut aussi le dire aujourd'hui.
Voilà pour cette déclaration de Martine Aubry. Rémi Lefebvre, vous qui êtes politologue, on l'entend depuis le début de cette soirée, vague verte, même là où les Verts ne gagnent pas, ils sont présents. Hein. Tout le monde se revendique désormais de l'écologie.
Oui, alors, il faut peut-être la nuancer, cette vague verte. J'ai regardé dans les 10 plus grandes villes françaises, il y a quand même 5 grandes villes qui sont détenues aujourd'hui par le Parti Socialiste. Donc, il ne faut pas oublier les
mais un Parti Socialiste qui s'est verdi peut-être.
Oui, bien sûr, carrément qui s'est verdi. Mais ce soir, c'est quand même une bonne opération pour le PS, et ça avait été une très bonne opération pour la droite au premier tour. Donc les enseignements de ce scrutin sont vraiment multiples, c'est très nuancé. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une vague verte et il y a deux forces politiques qui sont désavouées localement très très fortement. C'est La République En Marche, hein, très très clairement, c'est un échec mais absolument cuisant, et le Rassemblement National quand même. En dépit de Perpignan, globalement, ça reste un micro-parti local, et ça pointe un des paradoxes de ce paysage politique français, parce qu'effectivement, on a les deux grandes forces politiques présidentielles, l'extrême droite et La République En Marche, qui sont totalement inexistants localement. Et donc on a cette espèce de décalage qui va être quand même intéressant à observer, et qui d'ailleurs incite très clairement Emmanuel Macron à vouloir enjamber l'obstacle des élections régionales et ne pas faire d'élections régionales. Donc ça, ça va être une des grandes questions quand même dans les mois qui viennent.
Qui va se poser évidemment. Concernant Marseille, eh bien, je crois que le suspense... Que peut-on dire ? Bonsoir Olivier Martoc, que le suspense reste entier à cette heure-ci ?
Bonsoir Claire. Bah écoutez, ça se décante doucement quand même. On va dire qu'il y a encore deux secteurs dans lesquels ça se joue à quelques dizaines de voix. Alors évidemment, ça recompte dans tous les bureaux de vote. Et ce sont deux secteurs assez importants parce que ce sont ceux qui envoient le plus de conseillers municipaux. C'est le 11-12 avec le maire sortant qui était LR, qui est talonné par l'homme du printemps marseillais. Et puis alors dans le 15-16, les quartiers nord, vous savez qu'il y avait Samia Ghali, ex-PS, qui n'a pas voulu s'entendre entre les deux tours avec le printemps marseillais, qui était donc opposé notamment au communiste Jean-Marc Coppola. Et bien là aussi, ça va se jouer à quelques dizaines de voix, et je peux vous dire que là, c'est très 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 tendu. Autre information, dans le 13-14, Stéphane Ravier, alors vous parliez toujours des villes tenues par le Rassemblement National, je vous rappelle quand même que le 13-14, c'est 270 000 habitants, c'est une ville de la taille de Grenoble, hein, ce secteur marseillais.
Alors, il vous voulez nous dire que c'est Stéphane plus Ravier. Grand que Perpignan, hein, c'est ça?
Bah, c'était mais pour oui. vous.
Non,
juste,
mais...
effectivement, ce ne sont que
et Marseille est plus étendue que Paris. Non, mais on connaît l'histoire.
mais non, tout ça pour dire que Stéphane Ravier, par contre, est battu, et ça, personne ne s'y attendait, par le général Galtier, qui était sur les listes de Martine Vassal. C'est la bonne nouvelle de la soirée pour Martine Vassal, mais on va dire que c'est la seule, puisqu'elle-même, elle est en ballotage très, très défavorable dans son secteur. Vous savez, c'est le secteur que la mairie de secteur de Jean-Claude Gaudin, qui n'avait jamais perdu, qui se faisait toujours élire au premier tour, eh bien là, elle serait battue par Olivia Fortin, la chef d'entreprise qui a lancé le printemps marseillais il y a à peu près un an. Et donc Martine Vassal serait battue. Et puis dans trois autres secteurs, eh bien les candidats du printemps marseillais l'emporteraient largement. Michel Rubirola, qui était donc la tête de liste du printemps marseillais. Vous avez raison de dire qu'elle est un peu verte, puisqu'elle était sur les listes vertes avant cette élection et avant le premier tour où les Verts ont fait scission, puis ils sont revenus entre les deux tours parce qu'ils avaient fait un très mauvais score. Il y a Sophie Camard, qui est la suppléante de Mélenchon. Même si Mélenchon a joué un rôle un peu particulier à Marseille, au premier tour il disait qu'il ne voulait pas en entendre parler, il est venu entre les deux tours apporter son soutien. Et puis il y a Benoît Payan, qui est l'homme fort du PS ici à Marseille, qui était le président du groupe PS opposé à Jean-Claude Gaudin, qui lui serait élu dans son secteur. Donc voilà, ce soir ça se décante et on voit que le printemps marseillais est peut-être en train de rafler la mise sur Marseille.
Merci beaucoup Olivier Martoc. Nous sommes en ligne à présent avec l'eurodéputé vert Yannick Jadot. Bonsoir Yannick Jadot.
Bonsoir.
Un grand merci d'être en ligne avec nous. Une première réaction peut-être à cette vague verte à laquelle on assiste depuis le début de la soirée. Vous devez avoir le sourire ce soir.
Bien sûr, c'est une grande satisfaction parce que ça fait des mois et des mois dans cette élection très étrange, avec un taux d'abstention sur lequel il va falloir quand même sérieusement travailler. Ça fait des mois que nous travaillons et qu'on voit cette aspiration populaire autour de l'écologie, autour de la solidarité, autour du renouvellement des pratiques politiques, du renouvellement des équipes, et y compris dans des villes où En Marche faisait alliance avec la droite, à Bordeaux, à Lyon, à Strasbourg. On remporte l'élection, mais sur une espérance, sur une écologie concrète, une écologie qui veut gouverner, mais qui veut gouverner pour les citoyens.
parce que parfois les écologistes font peur aussi. On a entendu il y a quelques instants Grégory Doucet rassurer les milieux économiques. C'est pas encore gagné ça de ce côté-là.
Quand on gagne sur les grandes villes, c'est qu'on a rassuré. Vous savez, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Et moi, quand j'ai fait campagne à Lyon, à Montpellier, à Lille, à Marseille et dans tellement de villes, beaucoup de réunions s'organisaient avec les milieux économiques locaux parce qu'ils savent bien que les enjeux du climat, les enjeux du vivant sont des enjeux qui permettent de dynamiser les tissus d'entreprise, qui permettent de créer de l'emploi. Donc finalement, on est aujourd'hui une réponse crédible à la crise sociale dramatique que nous traversons, à la redynamisation de l'économie et évidemment à la question des injustices, à la question des inégalités. Là, ce soir à Colombes, c'est aussi une victoire des quartiers populaires autour de l'écologie.
Yael Gozet, une question pour vous, Yannick Jadot.
Yannick Jadot, bonsoir. À l'Élysée, on prend acte ce soir de cette vague verte et on dit que demain, il y aura des réponses fortes apportées à la Convention climat, les 150 citoyens reçus par le président à l'Élysée. Vous lui faites confiance? Est-ce que vous avez le monopole de l'écologie ou est-ce qu'Emmanuel Macron peut en faire aussi?
Mais moi, je souhaite qu'Emmanuel Macron en fasse enfin. Mais mon sujet, c'est pas qu'Emmanuel Macron réponde à la vague verte. Mon sujet, c'est qu'Emmanuel Macron intègre la question du climat, de la disparition du vivant, qu'Emmanuel Macron voit à quel point l'écologie, je l'ai dit, peut créer de l'emploi, peut dynamiser les entreprises. Mon sujet, c'est pas qu'il fasse de l'électoralisme à deux balles. Mon sujet, c'est que, au fond, il projette notre pays dans une espérance et il s'était engagé à ce que il reprenne les propositions de la Convention citoyenne sans filtre. C'est son expression et je souhaite qu'il le fasse parce que quand les citoyens se convertissent à l'écologie en 9 mois, on attendait du président de la République qui est là depuis 3 ans qu'il fasse la moitié du chemin au moins.
Yannick Jadot, on voit clairement que les Verts alliés avec la gauche ont gagné là où ils se présentaient unis. Ça veut dire quoi? Définitivement, les écologistes sont de gauche?
C'est pas ce qui s'est passé à l'échelle locale. Je suis d'accord sur le fait que pour gagner, on a rassemblé très largement. Mais c'est pas simplement un jeu d'appareil qui s'est joué aujourd'hui. Voyez bien que les victoires, y compris à Paris, à Nantes, à Rennes, sont aussi des victoires qui mettent l'écologie, la solidarité, la démocratie au cœur du projet. Donc notre responsabilité aujourd'hui, c'est évidemment de rassembler largement, les Français, parce que ce soir, le seul projet en conquête, le seul projet qui a porté des alternances dans la plupart des grandes villes, c'est le projet de l'écologie. Et on aura, nous écologistes, une responsabilité particulière à rassembler largement.
Yannick Jadot, est-ce que ça vous conforte dans l'idée d'une candidature bientôt, dans 18 mois, pour la présidentielle?
Yael Gauze, on est le soir des municipales. C'est une élection locale. Évidemment, quand il y a un tel mouvement vers l'écologie, on est obligé d'en tirer des leçons nationales. Mais ce soir, c'est la victoire de celles et de ceux qui se sont engagés dans ces élections municipales, qui se sont battus pour redonner l'espoir à nos concitoyens, qui dès lundi agiront à l'échelle des vies quotidiennes, à l'échelle des vies locales, pour transformer la société, pour transformer les villes. Et toutes mes pensées ce soir vont à ces candidates, à ces candidats qui ont été élus maires et qui vont avoir une sacrée responsabilité dès demain.
Merci beaucoup Yannick Jadot pour cette réaction sur l'antenne de France Inter. On va aller à Toulouse à présent où le maire Jean-Luc Moudin, qui conduisait une liste LREM, arrive en tête ce soir. Bonsoir Stéphane Iglesias.
Bonsoir Claire.
C'est l'exception qui confirme la règle, Toulouse, en fait.
C'est exactement l'exception qui confirme la règle, puisque avec 52% contre 48, c'est une nette victoire pour le maire sortant Jean-Luc Moudin. Antoine Maurice, qui avait réuni sur son nom les forces de gauche, Vertes, PS, la France Insoumise et Citoyenne, la campagne de ce second tour a été assez violente, marquée par une dramatisation du maire sortant, qui a expliqué notamment que les Gilets jaunes risquaient d'arriver au Capitole, la mairie de Toulouse, un maire sortant qui a surtout mis en avant son expérience par gros temps économique et et qui a promis de réaliser une troisième ligne de métro, de se battre pour la ligne à grande vitesse, et qui a aussi insisté sur la sécurité, promettant notamment de demander plus de policiers nationaux et de continuer à installer des caméras de vidéoprotection. Antoine Maurice, son adversaire de gauche, reconnaît sa défaite. Il regrette de ne pas faire partie justement de cette vague écologiste de ce soir, car le changement ne sera pas pour maintenant, a-t-il expliqué. Le candidat de gauche battu estime ne pas avoir réussi à assez mobiliser ses électeurs. Il a bien eu un sursaut de 11 points de la participation entre le premier et le second tour à Toulouse, mais qui a, semble-t-il, parti plus profité au maire sortant. Après 2008 et 2014, c'est aussi, il faut le signaler, la troisième fois que les sondages se trompent quant au vainqueur pour les municipales à Toulouse. Enfin, l'union de la gauche s'est faite ici dans la douleur, nous l'avons raconté, avec la tête de liste PS Nadia Pelfig, vice-présidente de la région, qui n'a pas rejoint la liste unique de la gauche, soulignant qu'elle ne se retrouvait pas dans le manque de dans certains projets du candidat de gauche, notamment son manque de soutien à la ligne à grande vitesse, la troisième ligne de métro, ou même ses projets économiques. Donc, comme en 2001 ou en 2014, la gauche gagnante au premier tour en additionnant ses forces ne transforme pas l'essai au second tour dans une ville qui souvent, vous le savez, vote à gauche aux élections nationales et qui depuis 1971, hors la parenthèse de 2008, vote à droite plutôt au municipal.
Et ben voilà, on s'y retrouve. Merci beaucoup Stéphane Iglesis. En ligne à présent également avec nous Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo à la mairie de Paris. Bonsoir Emmanuel Grégoire.
Bonsoir.
C'est un soir de fête ?
C'est un sort de fête, oui. On essaie d'avoir la victoire quand même humble parce qu'on a passé des derniers mois très compliqués. On a le souvenir de cette crise grave. Et donc ce soir, c'est plutôt de la satisfaction, du soulagement et l'envie de se projeter dans le travail et le projet de transformation que Anne Hidalgo a proposé.
Tout va continuer comme avant pour l'équipe en place ?
Non, parce que c'est une nouvelle mandature. Il y a des projets différents avec de nouveaux visages pour l'incarner, de l'expérience, mais aussi des nouveaux. Et donc Anne Hidalgo va affiner tout ça dans les jours qui viennent. Nous avons un projet en revanche qui lui est clair, hein, qui est un projet d'accélération de la transformation de Paris sur quelques grands fondamentaux. Évidemment, l'exigence environnementale, la question de la solidarité, la question de l'attractivité. Et puis, je ne peux pas ne pas le dire, aussi la prise en compte de cette crise exceptionnelle que nous venons de traverser, ses conséquences sanitaires, mais aussi ses conséquences économiques et sociales qui s'annoncent dures et pour lesquelles nous allons devoir nous mobiliser tous ensemble à Paris, mais aussi nationalement, pour aider un certain nombre de nos concitoyens et un certain nombre d'entreprises.
Yael Gauze.
Emmanuel Grégoire, on a appris il y a une dizaine de minutes que Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, n'était même pas élue au Conseil de Paris. Comment interprétez-vous cette hécatombe-là ?
Écoutez, d'abord un message de respect pour l'ensemble des compétiteurs de cette élection. Elle a été à bien des égards très compliquée. Et pour La République En Marche, je n'ai pas besoin de rappeler combien leur campagne a été bousculée. Et donc voilà, pour Agnès Buzyn, du respect, j'ai pas envie de commenter ni d'accabler quoi que ce soit. Voilà, c'est aussi, je crois, de la part des Parisiens, une façon de sanctionner un manque de clarté, peut-être un manque d'évidence sur le projet qui était proposé. Voilà, c'est plutôt à notre avantage. Je crois aussi indirectement à celui de Rachida Dati. Mais ce soir, j'ai plutôt envie de me satisfaire de notre victoire et pas de la défaite des autres.
Merci beaucoup Emmanuel Grégoire d'avoir réagi sur l'antenne de France Inter. Du côté de la majorité, eh bien, on confesse une déception ce soir. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, ne s'en cache pas.
Évidemment, ce soir, nous éprouvons une déception parce que il y a des endroits, vous avez cité Lyon à l'instant, où notre propre division interne nous a conduit à des scores extrêmement décevants.
C'est l'histoire de la vie politique française.
Il faut évidemment d'abord en tirer les leçons et nous rendre compte que dans les mois à venir, nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de division. C'est le premier élément. Deuxième élément, et je le dis encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. La République En Marche est un parti qui existe depuis 4 ans maintenant, et ça fait 4 ans que petit à petit nous avons ce souhait d'implantation locale, et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que les maires qui sont élus sont bien souvent des maires sortants, et que les bascules d'un côté ou de l'autre ne se font pas si aisément que cela. Il y a donc une prime très forte aux sortants, il faut le concevoir, et nous avons besoin d'avoir cette implantation locale. Je crois que c'est aussi important parce que cela nous permettra de continuer à porter haut et fort les couleurs de la majorité au niveau national, au Parlement Parlement, Assemblée nationale notamment.
Implantation locale, et ben c'est exactement ce qui s'est passé au Havre, avec Édouard Philippe qui sauve l'honneur de la majorité, réélu haut la main dans sa ville.
Au Havre, les résultats sont nets. Et je voudrais remercier très sincèrement les Havraises et les Havrais qui ont continué à nous faire confiance et qui nous ont chargés de poursuivre la transformation engagée il y a maintenant bien longtemps avec Antoine Ruffnac. Il nous revient à l'équipe que j'ai eu le très grand privilège de conduire, de s'engager toujours plus avant dans cette direction et de faire de notre ville, que nous aimons profondément, cette ville exemplaire, cette ville plus douce, cette ville plus verte, cette ville plus attractive que nous voulons construire.
Ah, la plus verte également. À Perpignan, Louis Alliot décroche la mairie. La dernière tentative aura été la bonne, Maxence Lambrec.
La quatrième candidature fut donc la bonne. Louis Alliot a réussi son pari. Une bonne partie de la droite a lâché le maire sortant LR, Jean-Marc Pujol. Et la gauche, elle, ne s'est pas déplacée pour lui barrer la route. Le Front républicain a cédé. L'ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen devient maire de Perpignan.
L'anathème, la diffamation et tout ce qui va avec n'ont que trop duré. Je remercie vraiment du fond du cœur toutes celles qui ont osé, parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord la victoire du peuple de Perpignan. Merci.
Applaudissements à Perpignan, mais aussi à Bruay-la-Buissière, dans le Pas-de-Calais. La cité minière devient la petite sœur d'Hénin Beaumont. Le député RN Ludovic Pajot l'emporte en duel face au maire sortant d'hiver gauche. Victoire aussi à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, et dans une série de petites villes, dans le Vaucluse, Bédaride, Morières-les-Avignon, Mazan. Marine Le Pen parle d'un déclic et ses conquêtes viennent atténuer trois défaites. D'abord dans le 7e secteur de Marseille, la droite reprend la mairie au RN, ainsi qu'à Mantes-la-Ville, en Ile-de-France, et au Luc, dans le Var. Et globalement, le nombre de conseillers municipaux va nettement diminuer par rapport à 2014. Le RN devrait perdre au moins un tiers de ses troupes. L'implantation locale du parti reste un vaste chantier.
Merci Maxence Lambrec. Voici pour ce petit tour de France. Vous rajoutez deux, trois résultats.
Oui, quelques bascules intéressantes, en fait, qu'on peut retenir. C'est vrai qu'à Poitiers, la candidate Europe Écologie, Les Verts, l'emporte sur le socialiste Alain Claisse, qui tentait un troisième mandat. Annecy, ancrée de longue date au centre droit, elle aussi tombe aux mains de la gauche et des écologistes avec l'élection de François Astorgue. Bascule aussi à Tours, en faveur du candidat écologiste face au sortant, UDI-LR, Christophe Boucher. Et puis, du côté de la gauche, on consolide, on arrache plusieurs villes. Nancy, pour le socialiste Mathieu Klein, face au radical Laurent Hénard. L'ancien ministre de François Hollande, Thierry Repentin ramène Chambéry dans l'escarcelle socialiste. Du côté de la droite, on résiste malgré la défaite à Marseille, on sauve Toulouse, on gagne Lorient, bastion socialiste, Maine ou encore la Seine-sur-Mer dans le Var.
Merci beaucoup Hélène Philippe pour ces derniers résultats. Il nous reste quoi, 2 minutes? Vous êtes 3 messieurs. Allez, un dernier tour de table. Vous avez 40 secondes chacun, à peu près. Rémi Lefebvre.
Oui, alors peut-être juste évoquer le contraste entre le premier tour où il y a eu énormément de sortants, beaucoup de notables reconduits, et le deuxième tour, un énorme renouvellement. C'est-à-dire qu'on vraiment on voit arriver à Lyon, à Bordeaux, dans plein de villes des personnalités complètement inconnues, ce qui est quand même très très rare en général pour être maire de grande ville. Il faut avoir accumulé du capital politique pendant des années, et là donc on a une accélération d'un certain nombre de carrières. Et voilà, donc c'est un contraste entre stabilité et renouvellement selon les villes. Je trouve que c'est assez intéressant comme enseignement.
Et ne pas oublier ce qui s'était passé au premier tour.
Et voilà, ça c'est très important.
Tout à l'heure, c'est quand même effectivement très important de ne pas oublier le premier tour avec beaucoup de
maires de droite.
De maires au premier tour. Stéphane Zumsteg, votre conclusion à cette soirée électorale très particulière. Oui, très qu'est-ce que vous retenez avant toute chose?
Peut-être un petit bémol sur la poussée verte, même si elle est indéniable, c'est de voir qu'elle a vampirisé. On a beaucoup entendu dire qu'elle avait vampirisé le reste de la gauche ce soir, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans des villes comme Paris, dans des villes comme Rennes, comme Nantes, où il y a une incarnation, il y a des maires sortantes, puisqu'il s'agit de femmes dans ces trois cas-là, qui ont un bilan écologique incontestable. On en pense ce que l'on veut, mais toujours est-il que ce sont des gens qui ont œuvré pour la réduction de la pollution de l'air ou de la réduction de la place de la voiture dans la ville. Eh bien, dans ces cas-là, les Verts sont totalement contenus dès le premier tour et la gauche, enfin le Parti socialiste, en tout cas, résiste très bien.
Merci beaucoup Stéphane Zumsteg. Le mot de la fin, ce sera pour vous, Yael Gauze, et vous avez exactement 40 secondes.
Et maintenant, que vais-je faire? Vous connaissez la chanson. Bah, Emmanuel Macron doit se poser la question ce soir à l'Élysée après avoir vu cette carte de France remodelée et verdie, à la fois tenir son socle de droite qui tient toujours, on le voit dans les sondages, et puis tenir compte en même temps de cette poussée pousser Écolo, comment va-t-il faire? Comment va-t-il reconfigurer éventuellement le gouvernement? Édouard Philippe est fort ce soir. Sondage Ipsos sur Prasteria. Une majorité de Français souhaitent qu'il reste à Matignon. Ils vont petit déjeuner ensemble demain matin. Et puis Édouard Philippe sera à la convention climat à l'Élysée. Réponse dans les prochaines heures.
Eh ben ça, c'est pour demain. Un très grand merci à tous les trois. Vous écoutez France Inter. Il est très précisément 23h30.